Bonsoir à toutes et à tous. En ce 1er janvier, c'est un des beaux visages de FIP que nous sommes heureux de mettre en lumière. Un visage plein de caractère qui peut se faire discret, mais qui est pourtant bien présent sur nos ondes chaque jour depuis 50 ans. Il s'agit de l'opéra. FIP aime l'opéra, FIP aime aussi le cinéma. Ces deux passions sont réunies en une à travers Viva l'Opéra. Une opération en partenariat avec les cinémas UGC et l'Opéra National de Paris qui permet au public de faire le tour du monde des plus belles productions lyriques et chorégraphiques de la saison, tout près de chez soi, dans des conditions exceptionnelles à tout point de vue. La nouvelle saison, la 12e, s'est ouverte en septembre. Elle vous a été mitonnée par Alain Duhaut, son directeur artistique, animateur de télévision, de radio, écrivain, poète, spécialiste en musicologie de l'art lyrique. Nous avons le grand plaisir de recevoir Alain Duhaut avec Laurent Valero. Bonsoir Alain Duhaut.
Bonjour petit Serge, bonjour, bonsoir. Enfin, comme on est le 1er janvier et qu'on n'a pas beaucoup dormi, on ne sait plus si c'est bonjour ou bonsoir. En tout cas, bienvenue.
Et bonsoir.
Et bonjour à tous les deux.
Et bonsoir. Merci, Laurent Valero. Laurent. La saison a commencé en septembre.
Mais oui, elle s'est terminée pour 2021 par ce qu'on entend, puisque c'était La Flûte Enchantée, qui était le dernier opéra que je diffusais en décembre dans une production absolument formidable, Barbet et Doucet, qui est une production de Glyndebourne.
Alors, quel accueil vous a réservé le public pour cette nouvelle saison, qui est un peu la saison de la Renaissance, en fait?
Oui, vous savez à quel point on est un peu frappé dans le spectacle vivant, et on est un peu l'écho de cela, puisqu'on a été interrompu par deux confinements. Et évidemment, on se demandait si le public allait être présent. Et oui, il était présent, il était demandeur. C'était tout à fait amusant parce que quand on a recommencé la saison avec la force du destin de Verdi, il y avait plein de gens qui étaient là. Et comme je vais de temps en temps tourner pour rencontrer les gens à l'entracte, ils se disaient « Ah, ça fait du bien, on se retrouve, on est entre soi ». Bon, évidemment, ils étaient d'autant plus contents que c'était une production de grand luxe, la production de Londres avec Jonas Kaufmann, qui est un des favoris pas seulement des gens qui vont à l'opéra au cinéma, mais qui vont dans les salles avec Ludovic Tézier. Bref, c'était du bonheur.
Alors pour commencer, Alain Duhaut, rappelons aux auditeurs qui ne connaîtraient pas cette opération Viva l'Opéra, dont vous êtes le programmateur et le directeur artistique, c'est qu'on peut assister à l'opéra, alors parfois pour des rediffusions, parfois pour du direct, ce qui est tout à fait étonnant, dans des salles de cinéma et pour un prix infiniment moins élevé, bien sûr, que si on achetait une place à l'opéra, et la possibilité aussi pour un quidam, je dirais, français, de suivre l'actualité internationale opératique grâce à cette opération.
Vous avez parfaitement raison, Laurent, c'est là l'intérêt, c'est les deux intérêts, je dirais. D'une part, des prix qui sont 10 fois inférieurs à ce qu'on paye quand on va dans ces maisons closes que sont les opéras. Et d'autre part, la possibilité de découvrir, je dirais pas en avant-première, mais une saison après ou deux saisons après, les grandes productions qu'on a pu voir dans le monde entier. Comme vous savez, je tourne beaucoup dans le monde entier pour aller voir ce qui pourrait, enfin, faire mon marché,
quoi,
qui pourrait
m'intéresser. Faire votre marché, oui, bien
sûr. Ensuite, faut voir si il y a peut avoir des accords avec les boîtes de production qui filment, soit les opéras, car il y a maintenant un certain nombre de maisons d'opéra qui filment, qui sont liées à des maisons de production, afin que je puisse constituer ma saison. C'est vraiment. Vous savez, c'est tout à fait étonnant parce que je suis comme si j'étais directeur de toutes les salles d'opéra du monde.
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal. Mais surtout, j'ai ainsi des possibilités de faire entendre des œuvres variées, des mises en scène variées, des chanteurs et des chanteuses, soit connus, soit à découvrir, des chefs d'orchestre. Bref, tout ce qui fait, en fait, la matière de cette passion que je partage depuis 12 ans avec tous ces spectateurs qui viennent avec toujours le même plaisir, et ce plaisir étant manifesté par une chose qui paraît incongrue quand on y va la première fois, mais auquel on s'habitue, c'est que les gens applaudissent dans la salle, alors que évidemment c'est enregistré, bien sûr, vous avez raison Laurent, c'est parfois en direct, et dans ce cas-là, quand c'est en direct de l'Opéra de Paris, ils applaudissent en même temps, mais même quand c'est enregistré, ils applaudissent quand même.
Comme ça, arrive, des fois dans des films de cinéma. Hein, ça
oui, mais vous savez, c'est aussi parce qu'il y a l'opéra, c'est il y a quelque chose de physique, et le sentiment physique de l'émotion ou de des poils qui se lèvent, eh bien, ça se traduit aussi par ces remerciements par les mains.
Alors, il y a aussi des découvertes, Alain Diaud, dans votre programmation, comme par exemple cette unique opéra d'Anton Dvorak, une œuvre absolument admirable et que le public pourra découvrir parce que ce n'est pas l'opéra le plus connu du public d'opéra et du public tout court. C'est Rusalka, on en écoute tout de suite un extrait.
Ты ж человек!
Le plus célèbre opéra de Dvorak à l'instant avec cet extrait de Rusalka par l'orchestre philharmonique tchèque avec à la basse Richard Novák dans le rôle de Vodník, le maître des eaux, et Gabriela Benaskova dans le rôle de Rusalka. Un opéra que vous pourrez découvrir au cinéma les 6, 11 et 13 janvier avec Viva l'Opéra, enregistré à l'Opéra de Pékin. Alain Duhaut, c'est une première fois qu'il y a une production cinématographique à l'Opéra de Pékin.
Exactement, Patricia, c'est la première fois qu'en 12 ans, j'ai la possibilité de faire acheter les droits d'une production à l'Opéra de Pékin, pour une raison simple aussi, c'est que pendant très longtemps, l'Opéra de Pékin ne filmait pas ou ne faisait pas filmer ses productions. Et puis, pour qu'ils puissent les filmer, il fallait qu'eux-mêmes aient le sentiment d'avoir une dimension internationale. C'est le cas. La mise en scène n'est pas du tout d'un Chinois. Elle est mise en scène, décor et costumes réalisée par l'Argentin Hugo de Hanna, qui a réalisé quelque chose de vraiment très réussi. Parce que, vous savez, c'est un peu un problème. C'est que la moitié de Rusalka, ça se passe sous l'eau. Donc, c'est pas très, très simple à mettre en scène. Mais vraiment, il y a une effectivité de ce sentiment d'être sous l'eau avec des projections. C'est très, très réussi.
C'est assez féerique.
Oui, oui, tout à fait féerique. Et je dois dire que quand j'ai vu la possibilité, vous savez, j'ai des tas de contacts un peu partout dans le monde et qu'on me dit, va y avoir une Rusalka qu'on peut probablement faire filmer ou avoir la possibilité d'avoir les droits, parce que ça, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai dit, ça m'intéresse évidemment, parce que Rusalka, c'est une œuvre à découvrir, et la découvrir dans une production de l'Opéra de Pékin, ça peut exciter aussi les gens. D'ailleurs, vous verrez, si vous venez le voir, on commence par être sur la grande place Tiananmen, puisque l'Opéra de Pékin est devant la Cité Interdite, et on découvre ce lieu qui est une sorte d'immense soucoupe volante grise qui est posée sur l'eau. On a l'impression que voulant me poser sur l'eau, c'est très étonnant. Et puis on entre à l'intérieur de ce théâtre et on découvre cette Rusalka avec une distribution de très très bonne tenue. Donc voilà, c'est
une réalisation
double plaisir.
Une réalisation très inventive, j'imagine, parce que pour filmer des entrechats, au milieu des entrechats et sous l'eau en plus.
Ah, mais alors on n'est pas vraiment sous l'eau, comme vous l'imaginez, mais ça donne le sentiment qu'on y soit.
Enfin, quand même, vous avez dû imaginer des prouesses techniques pas possibles.
Oui. Mais vous savez, tous les opéras ont des exigences particulières. Là, évidemment, ça paraît toujours étonnant, parce que quand on dit on va aller filmer sous l'eau, d'une certaine manière, quand les sportifs font filmer la natation synchronisée, c'est aussi sous l'eau. Mais là, ils sont vraiment sous l'eau, tandis que là, les chanteurs ne sont pas vraiment sous l'eau, mais il y a des systèmes de tulle et de projection qui donnent le sentiment qu'on est vraiment sous l'eau.
Mais vous êtes vraiment plus près des artistes.
Oui,
le spectateur découvre, c'est quelque chose de très intime.
Vous avez raison de le souligner, c'est ce qu'on ne voit pas dans une salle. Ça, c'est aussi l'avantage du cinéma, indépendamment de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que vous êtes à côté des artistes, puisque avec les caméras, on s'approche au plus près, on voit les artistes et on a l'impression de participer à l'action. C'est ce qu'on aime.
C'est très différent de ce qu'on vit à l'opéra. C'est encore autre chose.
Vous savez, c'est assez amusant, parce qu'il y a régulièrement des gens qui ont vu le spectacle dans un opéra et qui viennent le voir pour voir la différence, pour constater la différence, c'est deux langages différents. Ouais. Vous savez, d'une certaine manière, c'est deux langages différents, comme l'opéra est un langage différent du théâtre. Quand Verdi, par exemple, décide de faire d'Othello à un opéra, il prend la pièce de Shakespeare, il coupe le premier acte, il inverse le deuxième et le troisième, il en fait un autre objet. Et au fond, au cinéma, on utilise ce qu'on voit pour en faire un objet qui est l'œil du réalisateur.
Bien
Mais
sûr,
c'est ça qui est intéressant.
La sensibilité du réalisateur en plus.
Bien sûr.
une émission spéciale sur FIP, sur le partenariat que nous entretenons avec Viva l'Opéra, et nous sommes en compagnie d'Alain Duhaut, son directeur artistique. On vient d'entendre l'ouverture des Noces de Figaro sous la direction de Jonathan Cohen avec l'orchestre Arcangelo. Et un petit mot pour revenir en arrière, Alain Duhaut, sur le mois tchèque. On a parlé tout à l'heure de Rusalka, d'Anton Dvorak, et on pourra entendre aussi dans Viva l'Opéra l'opéra de Leos Janáček, Genufa.
C'est ça, l'opéra le plus célèbre de Leos Janáček, Genufa, dans une superbe production d'Alvis Hermanis venu de Bruxelles. Ça vaut vraiment la peine d'abord pour aussi découvrir Genufa, parce que Rusalka n'est pas très connu, mais Genufa non plus pas tellement, et une production d'une beauté, d'une surprise étonnante, je n'en dis pas plus. Il y a des renversements visuels qui sont tout à fait extraordinaires, mais donc j'ai voulu donner dans ce premier mois de janvier 2022 un éclairage sur l'univers lyrique tchèque.
Alors il y a un événement un peu, c'est toujours un événement, une nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart à l'Opéra de Paris. Ce sera le 3 février en direct, donc comme en toutes direct. Les productions de l'Opéra National de Paris, dans Viva l'Opéra, et on attend évidemment un peu au tournant à la fois le chef d'orchestre, Gustavo Dudamel, dont c'est la première saison, et on attend aussi le metteur en scène, parce qu'on a tous dans les mémoires évidemment la production de 73 de George Strehler sous l'air Liberman.
Ça a été une des plus belles émotions qu'on ait connues à l'Opéra, et à chaque fois que ça a été repris, on a toujours retrouvé cette émotion visuelle, l'intelligence du visuel et la musicalité du visuel. Ce qui était formidable chez Strehler, c'est qu'il composait des images qui étaient liées au rythme musical, et tout ça paraissait une évidence. C'était tout à fait, on avait l'impression que tout ça, on était dedans, on vivait dedans, enfin ça c'était extraordinaire. Alors là, c'est une jeune metteur en scène, Netia Jones, qui, à mon avis, n'était pas née au moment de la production de Strehler, donc elle n'a pas, si vous voulez, cette pression qu'on peut avoir, des metteurs en scène qui ont vu la production de Strehler ont cette pression. Elle, je crois pas, je ne sais pas ce qu'elle va nous donner à voir, ou en tout cas, les deux, trois choses que je sais sont confidentielles, donc vous me permettrez de n'en pas parler. Mais il y a, comme vous le dites, double pression pour elle, parce que, indépendamment d'ailleurs de Strehler, les Noces de Figaro, c'est un des chefs-d'œuvre absolus de toute l'histoire de l'art lyrique. C'est très complexe. Ces quatre actes, qui sont quatre moments différents de cette folle journée. Et puis, cette pléiade de chanteurs qui sont tous des solistes, mais dont les ensembles sont si difficiles à régler. C'est vraiment un moment exceptionnel. Et ça sera, évidemment, pour Gustavo Dudamel, un autre moment difficile. On l'a entendu donc fin novembre, début décembre dans Turandot, qui est plus son répertoire. Mais dans Mozart...
C'est pas le cas de Mozart.
Ben non, dans Mozart, il faut des qualités tout à fait spécifiques, mais que doit avoir un directeur musical d'un grand opéra comme l'Opéra de Paris. On entendra, et je lui en parlerai, puisque je l'interviewerai à l'entracte, comme je le fais dans tous les directs. Ça, c'est la magie du direct, c'est d'abord se retrouver en même temps. C'est comme quand on est quand on voit un match de foot à la télé, ben on est en même temps. Là, on vit les choses en même temps. Et donc, j'interviewe le chef, le metteur en scène, des chanteurs.
Et même pour les artistes, il y a 40 salles avec des milliers de spectateurs qui regardent en plus.
C'est une pression supplémentaire, mais ils aiment assez ça. Ils aiment assez ça parce que, si vous voulez, depuis 12 ans maintenant, ça a eu un
public. C'est entré dans les mœurs,
évidemment. Donc, ils aiment assez. Et beaucoup d'artistes disent que les soirs où c'est filmé pour la télé, ils ne jouent pas de la même manière parce qu'ils jouent en pensant au gros plan. Vous savez, un chanteur, quand il est en scène, il fait, comme me disait Ruggero Raimondi, il fait le sémaphore pour faire des grands gestes, pour être vu des gens qui sont à 50, 60, 70 mètres de lui. Quand ils sont en gros plan, évidemment, il faut que le visage fasse les gestes, si j'ose dire. Donc, ils intègrent cela.
Voilà, et des gestes à l'italienne bientôt, les 10 et 15 et 17 février. On aura le plaisir de voir à Viva l'Opéra une production qui nous vient de Venise. Il s'agit de La Somnambule de Vincenzo Bellini, dont on écoute un extrait. Come on.
Sovra il sen, la man mi posa, par l'étonnant Cecilia Bartoli dans cette production, dans cet enregistrement, devrais-je dire plutôt, de la Somnambule de Bellini avec l'Opéra de Zurich en 1991 sous la direction d'Alessandro De Marchi. Hors micro, nous parlions à l'un duo de Cecilia Bartoli, que nous n'entendrons pas dans Viva l'Opéra, qui peut tous permettre, comme mezzo-soprano, d'interpréter le rôle de la Somnambule.
Oui, on l'a entendu dire dans Viva l'Opéra, dans une mise en scène absolument extraordinaire de l'italienne Alger, on la réentendra.
De Rossini.
Mais oui, Cecilia, c'est une star particulière qui peut tout se permettre parce que elle a dépassé le statut d'une grande chanteuse d'opéra. C'est une sorte de chanteuse de revue qui fait comme les grandes revues de music hall et qui utilise l'opéra pour déployer des dons tout à fait exceptionnels. Mais c'est une rockstar de l'opéra, je dirais.
Alors dans Viva l'Opéra, pour la Somnambule, ce sera Jessica Pratt, chanteuse australienne, dont vous me disiez qu'elle était un peu la successeuse,
je sais pas si je peux vous expliquer. Celle qui a succédé à John Sutherland. Oui, elle n'est pas très connue en France, elle est beaucoup plus connue en Allemagne et en Italie, où elle chante beaucoup. Si vous voulez, les chanteuses qui chantent avec cette facilité les rôles de colorature aiguë de l'opéra italien, évidemment, elles ont des emplois. Là, ça a été tourné à la Fenice, donc on les entend beaucoup, mais les Allemands aiment aussi beaucoup Jessica Pratt, et c'est une bonne occasion de la découvrir pour le public français dans une mise en scène absolument épatante.
Alors permettez-moi, Alain Duhaut, de citer un extrait de votre dictionnaire amoureux de l'opéra. « Je ne connais rien de plus émouvant qu'une femme qui se met à nu en chantant, sa voix montrant l'intérieur de son corps comme un gant retourné. Je ne connais rien de plus touchant qu'un homme qui exprime son âme en chantant, baissant toutes ses gardes. C'est pour ces moments uniques et éternels, pour les décrire, les murmurer et les faire entendre à tous ceux qui le liront, que j'ai voulu écrire ce dictionnaire amoureux. » Est-ce qu'il y a un lien entre vous ? Enfin, ça me semble évident, mais entre la passion amoureuse et l'opéra. C'est ainsi que vous le vivez.
Bien sûr, vous savez, je disais tout à l'heure, l'opéra c'est une passion physique. Il n'y a pas d'endroit où on a de telles émotions physiques qui se traduisent d'ailleurs aussi bien dans la passion positive que négative. À la fin d'un air porté par des vocalises qui se terminent par un contrut ou un contremi ou un contresol, les gens se lèvent et hurlent de bonheur, c'est un orgasme véritable. Mais quand la note est craquée, les gens hurlent avec une méchanceté une méchanceté, parce que vous savez, quand on connaît les chanteuses, moi j'ai vécu avec une chanteuse, donc on voit ce que c'est la somme de travail, mais c'est comme ça, c'est physique. Donc il y a quelque chose de lié à la passion amoureuse dans la passion lyrique, oui, bien sûr.
che sarà e come sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chi amerà butterfly dalla lontano. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per
la sublime soprano Anna Nebrecco, à l'instant, qui interprétait un Un bel di vedremo, extrait de Madame Butterfly de Giacomo Puccini par l'orchestre del Teatro alla Scala, dirigé par Riccardo Chailly. Voilà, nous sommes dans une émission spéciale aujourd'hui, ce soir, avec Viva l'Opéra, dont FIP est partenaire. Alain Duo, son directeur artistique, nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous parler de cette programmation.
Je vous arrête tout de suite pour dire une chose. Vous avez dit très justement que c'était l'orchestre de la Scala dirigé par Riccardo Chailly. Et ce qu'on verra en mars à Viva l'Opéra, c'est une Madame Butterfly de la Scala dirigée par Riccardo Chailly.
Eh oui, magnifique.
On est raccord dans la programmation de
synchrone.
Ce spectacle.
Bravo.
Et ce ne sera pas Anna Netrebko, d'ailleurs.
Non, non, ce sera pas Anna Netrebko.
Et un autre Puccini, il y aura Turandot également.
Turandot aussi, l'ultime opéra de Puccini, qui sera d'ailleurs aussi en direct, en différé de la Scala de Milan.
Alors, au rayon des découvertes, Alain Duo, également le peu connu opéra de Jules Massenet, Cendrillon, qui sera chanté par Karine Deshaies.
Oui.
Extraordinaire chanteuse française.
Oui, une des grandes
très
chanteuses
grande
françaises.
Voix.
Alors d'abord, Cendrillon, ça a été étouffé par la Cenerentola de Rossini, qui est le même thème, mais qui a une espèce de vivacité rossinienne. Et quand Massenet a entrepris de composer sa Cendrillon, on lui a dit, oui, elle Rossini, mais il a dit, je vais faire mieux. Il a peut-être fait, en tout cas, mieux, je ne sais pas, mais en tout cas différemment. Mais il y a une poésie extraordinaire dans la Cendrillon de Rossini. Il y a une virtuosité époustouflante. Là, c'est pas la virtuosité, c'est la poésie et l'intériorité. Et Karine Deshaies est vraiment une de celles qui aujourd'hui devrait s'imposer plus dans les scènes françaises. Et je pense que ça aurait été d'ailleurs une bonne idée de Alexander Neff, mon ami, le directeur de l'Opéra de Paris, d'engager Karine Deshaies, qui malheureusement fait une carrière internationale beaucoup plus que française, alors que c'est une des grandes chanteuses françaises, donc vous avez eu bien raison de la programmer.
Écoutez comment elle chante, parce qu'on comprend parfaitement ce qu'elle dit. Ce n'est pas toujours le cas.
Enfin,
D'un opéra pas encore très connu à l'instant, un opéra français, le Cendrillon de Jules Massenet, dont l'air Je suis ici est interprété à l'instant par la soprano Karine D. Et Cendrillon joué.
Mais
c'est les fêtes de fin d'année, alors
non,
on n'a pas l'esprit très clair.
Il y a un peu de rapport, parce que c'est quand même les cendres, les taux bord des cendres.
Oh, merci Alain Duo. Merci. En même temps, on n'a pas forcément l'esprit aussi clair que la voix de notre soprano.
Alors on l'entendra en direct donc, dans Vive à l'Opéra le 7 avril, cette Cendrillon.
Et oui.
Et j'espère qu'on découvrira que vraiment cette production fera découvrir cet opéra qui gagne vraiment à être connu, alors que c'est un opéra qui est extrêmement connu aux États-Unis. Vous savez que au New York City Opera, qui était le deuxième opéra de New York, il y a pendant longtemps, on a donné tous les opéras de Massenet qu'on donne pas en France, dont cette Cendrillon. Moi, j'ai vu la première fois Cendrillon à New York.
Oui, c'est comme Berlioz qu'on a un peu redécouvert grâce aux Anglais.
Exactement.
Avec John Elliott
Gardiner,
qui a fait un travail incroyable sur la musique française.
Et Sir Colin Davis.
On n'est pas prophète en son pays, voilà. Alors, on va rester dans le domaine français, Alain Duo, avec une autre production de l'Opéra Bastille, qu'on pourra entendre les 14 et 21 avril, dans le cadre de Vive à l'Opéra. Et c'est le Gounod de Faust, j'allais dire.
Oui.
Le Faust de Charles Gounod, avec un chanteur qu'on aime beaucoup, qui est aussi, qui fait une carrière absolument admirable dans le monde entier, qui est un peu un exemple de ce que peut être le chant français quand il est beau, comme celui de Benjamin Bernheim.
Mais l'épanouissement même de la ligne, de la prononciation, de l'émission claire.
Et ce qui était le cas de Karine Deshaies qu'on a entendu tout à l'heure.
Mais là, dans les rôles de ténor, il est aujourd'hui sans doute un des meilleurs chanteurs français. Et d'ailleurs, on s'en rend compte puisque on a la chance de l'entendre encore à l'Opéra de Paris, mais il est demandé au Met de New York, à Madrid, à Vienne, il chante partout. Il a que 35 ans, mais il est déjà une star. C'est vraiment, et c'est un garçon qui est vraiment, c'est du sucre ce garçon, il est d'une gentillesse, tout ce qu'on aime.
Alors, un mot sur cette production du Faust, sur la mise en scène, sur...
Oui, c'est une production d'un metteur en scène qui est très à la mode, qui s'appelle Simon Stone. C'est une production avec plein de décors, très, très vivants, très, vraiment tout à fait étonnantes. Et, au début, quand on rentre dedans, on est un peu tourbillonné parce que c'est une espèce de... Oui, il y a quelque chose d'un manège visuel, mais ce manège visuel correspond aussi à tout ce que Gounod a voulu mettre. Vous savez, dans Faust, qui est son premier grand triomphe, eh bien, il a voulu mettre au fond comme quelqu'un qui écrit un premier roman. C'était pas son premier opéra, mais les autres avaient été des échecs. Et là, il a voulu mettre tout ce qu'il savait faire. Il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et Benjamin Bernheim porte ça avec une grande intensité. Et puis il y a une chanteuse que j'adore qui s'appelle Hermonella Giao qui chante Marguerite. Les duos qu'ils font ensemble sont splendides et je les interviewe évidemment à l'entracte, Benjamin Bernheim et Hermonella Giao.
Alors je vous propose qu'on écoute Benjamin Bernheim dans l'air certainement le plus célèbre de ce Faust de Gounod, Salut, demeure chaste et pure, l'acte 3, la scène 4.
Salut, demeure chaste et pure.
C'est beau, hein?
Ah oui. Nous étions un instant à l'acte 3 de la scène 4 du Faust de Gounod, avec la voix absolument magnifique et claire du ténor Benjamin Bernheim. L'opéra filmé, un opéra filmé depuis l'Opéra Bastille, sera à écouter voir pour vibrer en grand au cinéma. Ce sera les 14 et 21 avril dans le cadre de Viva l'Opéra, dont vous êtes le directeur artistique, Alain Duhaut. Une œuvre tournée pendant le confinement, vous avez assisté.
Oui, j'étais dans la salle, évidemment, mais c'était très douloureux. Comment vous dire douloureux? Vous avez entendu la manière dont chante Benjamin Bernheim. Il chante de la même manière dans cet enregistrement. Mais pour lui, comme pour tous les chanteurs de ces deux productions qu'on a enregistrées pendant le confinement, c'est terrible parce que quand on chante comme ça, évidemment, on attend ce qui va vous nourrir et être le remerciement de ce qu'on a chanté, c'est-à-dire les applaudissements du public. Et là, c'était un silence glacial. Ouais. Et il me disait, c'est comme si on prenait un coup de poing dans la poitrine, parce que il y a rien. Ouais. C'est comme tout d'un coup, on tombait dans un puits de solitude.
Ouais, mais il peut quand même aller au cinéma pour retrouver les applaudissements. J'imagine que le public va être
tout
au rendez-vous.
Tout à fait. Ouais. Alors,
alors, on va rester dans le domaine et on s'approche du terme de cette émission qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire en votre compagnie, Alain Duhaut, autour de Viva l'Opéra, dont FIP est partenaire, je le rappelle. Et on encourage évidemment les gens à vivre cette expérience d'aller écouter de l'opéra en direct ou
et
pas,
voir.
Peu importe, et voir l'opéra.
Écoutez, voir.
Dans de très bonnes conditions son et de...
Son numérique, image numérique.
Et oui, donc dans d'excellentes conditions et peut-être pour certains, et certainement, tous les ans, après, depuis 13 années ou 14 années,
c'est 12, 12.
12 c'est années. 12,
on termine la 12e année.
Qui vont découvrir, finalement, entrer bien dans sûr. Le domaine, dans cette espèce de dimension invraisemblable qu'est l'opéra.
Il y a toujours des gens qui disent que, bon, ben, ils se sont dit, tout le monde parle au cinéma, d'opéra, donc on va aller voir au cinéma, ça coûtera moins cher, on verra. Et il y en a qui sont qui mordus et reviennent. C'est ça, ça qui est formidable.
Alors, l'opéra français, évidemment, avec l'opéra des opéras, pour terminer cette émission, Carmen, l'opéra le plus joué au monde, est certainement un des chefs-d'œuvre les plus consistants également, parce que c'est pas pour rien.
C'est une histoire terrible. D'ailleurs, quand vous imaginez que cet opéra, vous avez raison de dire qu'il est le plus joué au monde, a été un bide à sa création.
Absolument, à l'opéra comique.
Exactement. Mais bon, là, j'ai voulu donner à voir et à entendre cette production qui est magnifique, qui a été
avec une jeune chanteuse
à l'opéra de Monte Carlo et qui permet effectivement de découvrir pour beaucoup cette chanteuse de la nouvelle génération qui s'appelle Aude Extremo et qui a tout. Elle a la personnalité vocale, mais aussi la personnalité physique. Elle a du chien, si vous voulez, quand elle est en scène. Elle arrive aussitôt, comme ça, elle se tourne. Elle a le sens vraiment du public.
Elle a l'autorité naturelle.
Elle tourne vers le public et elle lance ça. Il y a quelque chose. Et là, on le saisit avec la caméra, parce qu'on est avec elle. Tout d'un coup, on comprend qu'elle s'adresse à nous, à chacun de nous. C'est ça qui est formidable.
Alors, Alain Duhaut, un petit clin d'œil. On est sur FIP.
Clin d'oreille, alors.
Un clin d'oreille. Oui, c'est vrai. C'est plus adapté. Avec cette version jazzistique de Carmen, une réussite du guitariste Barney Kessel, qui réalisait les arrangements fort bien entouré, il faut bien dire, de ses comparses, parmi lesquels le pianiste André Prévin, qui lui avait les deux pieds à la fois dans le classique, à partir des années 60.
Pianiste et chef d'orchestre.
Et pianiste et chef d'orchestre, et pianiste de jazz, avant de devenir le grand chef d'orchestre qu'on connaît, qui était aux côtés de Barney Kessel. Et on pourra se dire un mot après. Ouais. Mais on va écouter ce Swinging the Toreador de Barney Kessel. Thank you. Ce petit clin d'œil avec ce Carmen revu et corrigé et arrangé par Barney Kessel et André Prévin, entre autres musiciens, en 1958. Et on termine cette saison de Viva l'Opéra avec un autre opéra français.
Oui, simplement, je voulais dire, ça montre bien la force de Carmen. Carmen, ça a été transformé en toutes sortes d'instruments parce que Carmen, ça a fasciné le monde. Bizet ne l'a pas su puisqu'il est mort trop tôt.
Mais avant de l'avoir entendu.
Oui. Bah oui. Et oui. Alors vous avez raison, on termine la saison de manière originale puisqu'on va
l'opéra baroque de Rameau
en direct de l'Opéra Garnier le 21 juin, jour de la fête de la musique. C'est notre collaboration à la fête de la musique avec le chef-d'œuvre de Rameau qui est platé dans une mise en scène époustouflante de Laurent Pelly, dirigé par un grand chef français, Marc Minkowski, avec une distribution formidable. Je dirais simplement Julie Fuchs qui joue le rôle de la folie et qui est inénarrable, enfin, Jean Tedjian, Marc Bouillon, ça va être un beau point d'orgue à cette saison.
Notre émission spéciale de ce soir s'achève déjà, toujours trop tôt quand on vous écoute, Alain Duhau, passionné, passionnant, comme peut être aussi l'opéra. Émission consacrée à la programmation de Viva l'Opéra, une idée lumineuse qui permet à l'opéra de venir au public, et non le contraire, quoique le public se rend dans les salles de cinéma, et en plus on vient habillé comme on veut. Voilà, on se laisse pas intimider. Une opération dont FIP est partenaire. Et comme à l'opéra, on peut s'abonner, on peut réserver son fauteuil pour être bien placé, et on peut applaudir, et c'est même... voilà, ça se fait tout seul d'ailleurs.
Beaucoup de gens applaudissent, c'est tout à fait amusant, et beaucoup de gens surtout, à l'entracte, pensant que ça fait partie des codes de l'opéra, se font servir une coupe de champagne.
Ah, très très chouette. Très voilà, comme nous, on va peut-être s'en offrir une d'ailleurs.
Ah oui,
ce
parce
soir.
Que pour fêter la nouvelle année.
Ouais. Le 1er janvier, ça se fait, oui, absolument.
Merci beaucoup, Alain Duhau, d'être venu nous voir pour nous parler de toute cette passion. Bravo à vous, à la réalisation ce soir de cette émission, à la mise en onde d'Alexandre Girard. Un beau duo, puisqu'on avait aussi ce soir Paul-Henri Dimitriou à la technique. Très belle soirée à toutes et à tous, et surtout, bonne année.